Les chroniques du vivant de Corinne.
Bonjour à toutes et à tous. Depuis la nuit des temps, le loup est entouré d'une aura de mystère qui attise les craintes et nourrit les peurs collectives. Il a souvent été diabolisé et a donné cours à de nombreux mythes, notamment celui du loup-garou. Il fascine aussi. N'était-il pas le compagnon de chasse des hommes préhistoriques? Certains auraient même vécu un contact si proche avec l'humain qu'il se serait petit à petit domestiqué. Nos amis les chiens le savent bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui a suscité autant d'amour que de haine, de passion que de crainte. Un sujet redevenu très polémique, celui du loup, à bien des égards, notre meilleur ennemi. Canis lupus, le loup gris, est un mammifère sauvage de la famille des canidés et de l'ordre des carnivores. C'est un prédateur opportuniste qui chasse des proies de taille moyenne, majoritairement des ongulés sauvages, cerfs, chevreuils, chamois, sangliers, ou encore domestiques, comme les moutons ou les chèvres, lorsqu'ils ne sont pas protégés. Il se nourrit aussi de petits gibiers, lièvres, lapins, rongeurs. À son menu également, des charognes et des fruits. Le loup est un animal social, intelligent et territorial, qui vit en meute doté d'un couple dominant, tous les membres participant à l'éducation des plus jeunes. La femelle peut mettre bas des portées de 3 à 8 petits une fois par an, et peut autoréguler sa reproduction en fonction de la taille de son territoire et du nombre de proies. La durée de vie d'un loup varie de 8 à 16 ans. Pour chasser sans répit au fil des siècles, le loup a disparu de France dans les années 1930 pour réapparaître de façon naturelle en 1992 dans le parc national du Mercantour, en provenance des Abruzzes italiennes. Il occupe désormais une trentaine de départements et sa population en 2023 se chiffrait à environ 1000 individus, chiffre insuffisant pour assurer sa survie. Depuis 1979, le loup bénéficiait au niveau européen du statut d'espèce strictement protégée par la Convention de Berne. Ce statut vient d'être abaissé le 3 décembre 2024 à celui d'espèce simplement protégée, ce qui risque d'en favoriser les tirs et de fragiliser fortement son rétablissement, même si l'État doit veiller à la conservation de l'espèce et de ses habitats. À signaler toutefois que, selon l'espace, les populations de loups en Europe n'ont toujours pas atteint un état de conservation favorable et en France, le loup demeure classé espèce vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. Avec nous, Christian Perrenot et Bertrand Manès, tous deux défenseurs de la faune sauvage, pour évoquer leur combat pour une cohabitation respectueuse de l'homme avec ce magnifique animal. Bonjour Christian, bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous en quelques mots nous présenter le collectif sauvage dans lequel vous êtes engagés tous deux?
Alors oui, ce collectif sauvage est d'une structure toute récente, elle a à peu près un an, donc elle est composée de personnes qui sont un petit peu sensibilisées, voire carrément sensibilisées à la protection de la nature. On est répartis un petit peu partout en France. Donc il y a des sauvages en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France, dans la région Rhône-Alpes, dans l'Hérault, dans le Gard, en Savoie, dans le Jura, dans l'Ain, voilà.
Ça représente beaucoup d'habitants, d'adhérents, tout ça?
Non, en fait on est une petite quinzaine, on veut dire 15-20, voilà.
D'accord, mais très actif apparemment.
Un petit peu actif, oui, on fait ce qu'on peut. Voilà. D'accord. Et donc notre but, c'est un petit peu quand même de sensibiliser à tous les aspects de la protection de la nature, et essentiellement de la faune sauvage, et puis de communiquer des choses qui sont parfois pas tellement sues du grand public, ni de certains médias, ni de certains décideurs politiques.
Oui, d'accord. Voilà. Quand vous parlez de la nature, vous parlez des animaux, mais de la biodiversité aussi, forêts, des habitats aussi, des écosystèmes
Oui, on est surtout axé sur la faune sauvage, hein, sur les animaux.
D'accord.
Mais c'est sûr que tout l'habitat ne nous laisse pas indifférents. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y aurait beaucoup à dire là-dessus.
Ouais, je crois, oui, en effet. Bon, aujourd'hui, nous abordons le cas du loup sur notre territoire, avec toutes les passions donc, qu'il peut susciter, de part et d'autre. Tout d'abord, est-ce que le loup est présent dans l'Hérault, sur notre territoire héroltais.
Oui, alors dans l'Hérault, il y a des loups. Il y a des loups. Le premier est arrivé il y a 7-8 ans à peu près. Actuellement, il y en a 5 qui ont été identifiés. Donc 3 mâles isolés, qui ne sont pas constitués en meute, qui sont dans le secteur de Caroux-Somaï. Voilà, le nord-ouest de l'Hérault. Hein. Mm-hmm. Et puis un autre qui est le dernier qui a été identifié, il est plutôt dans la plaine, vers Saint-Martin-de-Londres, Viol-le-Fort, tout ça. Et un autre, non identifié, enfin non sexé, qui est sur le plateau du Larzac. Voilà. Donc ça, c'est l'état actuel. Il faut quand même rappeler que avant eux, il y a quand même eu 4 loups qui ont été identifiés, dont 2 femelles, depuis 2018, et qui ont disparu des écrans radars. Voilà, donc ils étaient bien suivis par l'OFB, la DDTM, avec pièges photo, traces, etc.
Et ils ont disparu ou ils ont été abattus? Enfin, on
alors, ils ont disparu. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun tir légal, ce qui laisse évidemment à supposer, voire à constater, hélas, qu'ils ont été l'objet de braconnage. C'est quasiment sûr, là.
Braconnage, ouais. Empoisonnement, ce genre de choses.
Braconnage, donc, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas exactement, mais bon, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le poison, les pièges, les tirs nocturnes avec lunettes à visée nocturne, etc. Voilà. Mais en tout cas, des choses qui ne sont pas légales.
Ils n'ont pas pu se déplacer ailleurs dans notre département.
Non, ils n'ont jamais été identifiés. Non, ils n'ont jamais été identifiés, ni repérés, ni en Aveyron, ni dans le Tarn, ni dans le Gard voisin ou la Lozère. Donc voilà, ils ont disparu. Le braconnage, ce qui est quasi sûr. Voilà. Il y a eu aussi un jeune, un louveteau, à l'été donc 2023, qui a été retrouvé mort en très très dénutri dans le secteur des Rives, en limite de l'Aveyron. Sur le Larzac, très dénutri, très très maigre, ce qui laissait penser que la mère avait été était morte très probablement quelque temps avant. Voilà. Et donc, d'après l'OFB, cet été 2023, cette reproduction était...
L'OFB, l'Office français de la biodiversité.
Oui, l'Office français de la biodiversité qui suit et qui fait un super boulot de suivi et de... Voilà. D'après l'OFB, donc, c'était cette reproduction de ce louveteau sur le Larzac, la première reproduction à l'ouest du Rhône. Voilà.
D'accord.
Donc, on en est là, à peu près, pour l'état des loups de l'Hérault.
Il n'y en a pas beaucoup, en fait.
Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5.
Il n'y a aucune meute, donc ce sont des individus isolés, chaque fois.
Oui, individus isolés, donc la seule meute qui aurait pu faire l'objet d'une... zone de présence permanente, on appelle ça une ZPP, qui est en fait le résultat de la présence d'une meute ou d'un loup après 2 hivers consécutifs d'observation. Donc il n'y a pas eu de zone de présence permanente de meute depuis. Voilà.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le rôle du loup dans les écosystèmes, Bertrand?
Alors, comment expliquer le loup ne va jamais jusqu'à l'extinction d'une espèce, parce que c'est son garde-manger. Et donc, il s'attaque souvent aux proies malades, vieilles, blessées.
Les plus
vulnérables, contrairement aux chasseurs, qui tuent le cerf, qui a le...
Mais le chasseur est un prédateur aussi. Hein.
Voilà, mais sauf que eux se contentent que des beaux. Là, c'est l'inverse. Ouais. Et donc, en fait, il y a des études qui ont été faites partout, jamais. Donc, il ne va jusqu'à l'extinction d'une espèce.
D'accord.
Alors, ça, c'est super important. Et il y a... des études qui ont été faites, entre autres, sur l'écologie de la peur, par le docteur Jean-Louis Martin, du CNRS, et que les proies qui étaient, enfin les espèces qui étaient sous pression avec le loup, étaient en bien meilleure santé que les autres, puisqu'ils passaient moins de temps à manger, ils étaient beaucoup plus sur le qui-vive.
Et plus alertes.
Plus alertes, bougeaient beaucoup plus. Donc elles ont aussi développé des stratégies pour justement ne pas se faire attraper par le loup, qui est quand même très 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 intelligent, qui réfléchit beaucoup. Hein, j'ai pu le constater sur des alpages de loups qui réfléchissent. Ils viennent, ils s'assoient.
Vous en avez vu vous-même?
Oui. Ils s'assoient, ils se mettent un petit peu en hauteur et ils observent. Et ce n'est pas pour autant qu'ils attaquent. Ils reviennent des fois le lendemain ou le surlendemain pour attaquer. Mais en général, ils calculent en permanence le bénéfice-risque qu'est-ce que ça peut leur apporter.
Ouais, c'est un animal intelligent.
Très, très intelligent, oui. Beaucoup plus que le chien, d'ailleurs.
Et il a aussi peut-être un rôle de régulation aussi sur les sangliers. On parle toujours de la prolifération des sangliers, des chevreuils.
Oui. Donc, alors, je vais pondérer un petit peu les choses. Sur un sanglier de 150 kilos, non. Puisque les meutes en France, c'est 4, 5, enfin 2 adultes et 3 ou 4 louveteaux et peut-être un subadulte. Mais donc forcément,
sur du gros gibier,
ils ne prennent pas ce risque-là, surtout avec du sanglier, quoi. Et sinon, oui, par contre, les petits ou un sanglier malade, ça ne les gêne pas, ils y vont. Hein, ils y vont, c'est vraiment, je vous dis, c'est toujours le bénéfice-risque, parce qu'ils ils peuvent pas se faire mal, ils ne peuvent pas se blesser, parce que dans la nature, une fois qu'ils sont blessés, ça devient beaucoup plus compliqué, même si on en voit aussi des loups qui boitent, qui s'en sortent, mais ça devient compliqué, parce que tout à l'heure, vous parliez, ça peut vivre très longtemps, effectivement, jusqu'à 16 ans. Mais dans la nature, en général, c'est plutôt 6-7 ans, tellement les contraintes sont importantes.
Certains pays le réintroduisent, le loup. Je crois que c'était en Écosse qu'il a été réintroduit.
Alors, il a été question, ils sont en train de faire des études, ils ont fait des études là récemment sur... la réintroduction en Angleterre, dans les îles anglo-.
Oui, je sais plus quel pays, mais... Oui.
Et pour voir, justement, parce qu'il y a une surpopulation de
chevreuils, de
cervidés.
De cerfs, tout ça,
Donc, ils ont dit que ça pouvait éventuellement aider.
D'accord. Mais comme il y a l'exemple de Yellowstone, on en parlait avec Christian l'autre jour.
À Yellowstone, oui, tout le monde commence un peu à savoir le truc. Il y avait eu une très grosse surpopulation de cervidés et qui avait déséquilibré complètement le parc. Et donc, c'était un petit peu alarmant pour la survie du parc. Et puis, à un moment donné, donc, les autorités du parc ont décidé de réintroduire, donc pour le coup artificiellement, là, c'est pas du tout comme en France. Ils ont pris des loups du Canada qu'ils ont réintroduits dans le parc à Yellowstone. Et en très peu de temps, 2-3 ans, le parc a été complètement rééquilibré, c'est-à-dire que les surpopulations de cervidés ont baissé, il y a eu un retour de castors, il y a eu un changement, mais vraiment incroyable, y compris au niveau des rivières, qui ont été modifiées,
au niveau de
tout le parc a été complètement revu. Et par rapport à ce qu'on pouvait dire sur les bienfaits du loup, c'est que, justement, alors c'était pas Yellowstone, mais je crois dans l'état de l'Oregon. Donc là, les autorités se sont rendues compte que, évidemment, la présence de loups sur le bétail posait parfois des problèmes. Mais là, les États-Unis, ils ont l'esprit un peu anglo-saxon, donc c'est le côté protestant qui compte ses sous. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait des aspects négatifs de la présence du loup, c'est-à-dire perte de bétail. Mais en même temps, ils se sont mis à compter les aspects positifs. Et là, le gros aspect positif, c'est que la présence des loups réduit énormément les collisions routières avec les cervidés. C'est-à-dire que les cerfs, chevreuils, élans, etc., ne traînent plus bêtement sur les routes comme ils faisaient avant. Et donc là, la présence du loup n'est même pas neutre, elle est positive dans cet état-là. Okay. Au niveau financier, j'entends, sans parler de tout l'aspect animal.
Venons-en donc aux dégâts sur les troupeaux qui attisent la colère et l'anxiété des éleveurs. En Italie ou en Espagne, cela ne semble pas poser autant de problèmes que chez nous. Vous pouvez l'expliquer ?
Oui, on peut essayer en tout cas. Donc d'abord, il convient de faire le constat, c'est que tous les éleveurs en France ne sont pas des anti-loups, loin de là, même si ce n'est pas ce qu'on entend le plus. Et il y a beaucoup d'entre eux qui arrivent à cohabiter avec les grands prédateurs, qu'ils soient loups, lynx, ours. Hein. Et parce que leur manière de cohabiter, c'est la mise en place tout simplement des protections qui sont financées par l'État, donc nous, les contribuables.
Hein. J'allais y venir, donc oui, l'État a mis
donc
en place
L'État a mis en place des très très gros moyens, donc ça se compte en millions d'euros hein, maintenant, depuis des années, avec une triptyque, on va dire, qui devient classique, c'est-à-dire les clôtures électriques, les CPT, et les chiens de protection de troupeaux.
Oui, les patous.
Et les patous, par exemple, oui. Ou, ou berger d'Anatolie, enfin, oui. Ouais. Et puis, un humain sur place, un berger, donc. Voilà, et donc, ce trio fait de... Voilà, ce trio, ça marche. Trio de protection. Donc, les Italiens sont habitués à faire ça, parce qu'ils n'ont jamais perdu la...
Ben, les méthodes ancestrales.
Voilà, le loup n'a jamais disparu d'Italie, les Espagnols non plus, les Roumains non plus, les Yougoslaves non plus. Donc voilà, il y a plein d'endroits en Europe où les éleveurs et les bergers ont gardé l'habitude de protéger leurs brebis des prédateurs.
Et en France, la prédation sur les cheptels est importante
hein? Alors en France, elle est importante. Il faut
c'est à peu près 11 000 à 12 000 ovins en général qui sont tués.
Oh, c'est pas mal, oui.
Enfin, avec des suspicions. Pas forcément systématiquement le loup, c'est une suspicion de loup.
Oui, parce qu'il y a aussi les chiens sauvages, je crois. Enfin, il y a des croisements aussi entre les loups et les chiens, non?
Donc... Alors les croisements, c'est très très peu. Hein, c'est vraiment peanuts.
Il y a deux ou trois cas seulement.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens divagants ou errants. Alors divagants, ce sont des chiens qui sont quasiment redevenus à l'état quasi sauvage. Errants, c'est le bon toutou qui va à sa niche le soir et puis après qui sort incognito, qui va faire des bêtises et qui revient le matin. Sans que son maître s'en soit forcément aperçu. Donc ça, c'est le chien errant qui peut faire des gros dégâts aussi.
Et on peut identifier au niveau des morsures, est-ce que c'est les mêmes...
Oui, ben, les OFB, donc les experts de l'OFB sont bien calés pour identifier ça. Y a des gros dégâts qui sont faits avec les chiens errants. Par exemple, dans le Lot-des-Vois, dans les années 2018 à peu près, il y a un éleveur qui avait perdu 60 brebis, hein, qui avait été attaqué par des chiens. Hein, voilà. Bizarrement, il se trouve que de temps en temps, quand ce sont des chiens errants qui attaquent, les syndicats agricoles dominants sont peu enclins à diffuser l'info, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc les prédations, c'est pas quelque chose qui est anodin. Sauf que si on fait, d'après le ministère de l'Agriculture, hein, si on regarde un peu de près, on se rend compte que donc le ministère de l'Agriculture, hein, c'est pas un organe écolo-intégriste, les prédations totales sur le cheptel représentent 0,06% du cheptel français. En comparaison, les pertes liées dans le transport représentent, elles, 4% du cheptel.
Oui,
donc c'est un rapport de à peu près 70 fois plus, 70 fois plus de dégâts dans les transports pour les brebis que à cause des prédateurs tout confondu. Hein. Voilà. On peut dire aussi qu'il y a un système de comptabilisation qui est un petit peu franco-français et qui fait que si on regarde de près, d'après un éthologue, un spécialiste qui s'appelle Jean-Marc Landry, en France, par rapport à la moyenne des pays européens, le nombre des dégâts serait 7 fois plus important que dans tous les autres pays de l'UE.
D'accord. Ok. Et est-ce que les tirs d'effarouchement ou les tirs sonores, tout ça, c'est une solution adaptée pour éloigner les loups des troupeaux ?
Alors, il y a des expérimentations en cours sur les tirs d'effarouchement. Pour l'instant, bon, j'ai pas trop eu de retour à ce sujet, mais ça fonctionnerait pas mal. D'accord. Mais faut savoir quand même que le patou, même si, comme on en parlait tout à l'heure en off, la fonction première, c'est d'alerter le berger.
D'alerter le maître.
Après, il y a l'effet de dissuasion. Et selon les études qui ont été faites, ça marche à 80%. Déjà, il y a 80% des attaques qui sont éliminées juste, simplement, avec l'effet de dissuasion. Même si on peut voir des fois des loups. Alors, en France, c'est différent puisque c'est souvent des attaques dues à des loups seuls, des solitaires. Parce qu'il faut savoir à peu près, hein, pour donner un ordre d'idée, un loup qui pèse 40 kilos peut tuer une proie de 40 kilos, mais peut pas tuer une proie de 80 kilos ou 100 kilos. Ouais. Donc en fait, c'est l'addition du nombre de loups qui permet, juste simplement, 3 loups de 40 kilos peuvent tuer une proie de 120 kilos, à peu près, hein, c'est pour avoir un ordre d'idée. Donc c'est souvent, malheureusement, le mouton qui en fait les frais, puisque... fait à peu près le garde-manger pour un seul loup. Et je voulais dire, dans le fameux triptyque, on néglige trop souvent le berger.
Oui, la place prépondérante du berger. Parce qu'avant, un berger ne quittait pas son troupeau.
Voilà. Et le fait d'avoir un patou, c'est très bien, mais on peut voir des loups attirer... un patou pendant qu'il y en a un autre qui croque le mouton.
Ils sont malins.
Ils sont très très malins. Ils les invitent au jeu. On voit des invitations au jeu puisqu'ils ont un langage commun et donc ils arrivent à se comprendre et il y a des invitations au jeu aussi sur les patous. Donc c'est des très très... Ils sont très très malins. Ouais.
Très bien. Et il y a le fait aussi peut-être que les troupeaux sont de plus en plus gros, les cheptels sont de plus en plus grands. Donc ça doit quand même pas faciliter les choses au niveau des bergers. Et à ce propos, Bertrand, j'aurais bien aimé que vous nous parliez un petit peu de l'éco-bénévolat qui existe pour le gardiennage des troupeaux. Je crois que vous êtes...
Oui. Alors, en fait, bon, nous, dans l'association où j'étais, on s'était occupé... Alors, pour quelques chiffres, il y a plus de 360 bénévoles. Il y a eu plus de 700 nuits qui ont été... consacrés à la protection de troupeaux sur une année, hein, j'entends, sur l'année 2023, là j'ai les chiffres. Et il y a 16 alpages qui ont été protégés et il y a eu zéro prédation parce que...
C'est donc vraiment efficace, oui.
C'est vraiment efficace. Alors, c'est efficace parce que déjà, dans cette association-là, au début, ils proposaient leurs aides et qui étaient systématiquement refusées. Donc, ils ont arrêté de proposer des aides et ce sont les éleveurs qui sont venus les voir. Et là, à partir de ce moment-là, ça a commencé à bien fonctionner. Et donc, à chaque fois, tous les ans, on a zéro prédation. On a zéro prédation. Et il y a des parcs de nuit, déjà. C'est pas tout le monde gambade dans la nature.
Est-ce qu'il y a un petit peu comme un pastour à loups qui a été mis en place
c'est à peu près la même chose.
Un programme de formation et puis des chantiers pour aménager
non, alors
les,
nous,
les partages,
enfin, il y avait quelques chantiers, mais essentiellement, ça n'est que sur la protection la nuit, même très pas bien. Le jour. Puisque le jour, il y avait le berger qui prenait le relais. Mais sinon... bien sûr, il y a des formations sur plusieurs jours, sur la biologie du loup, sur le comportement qu'on peut avoir et toutes ces choses-là.
En tout cas, c'est des méthodes efficaces. Oui. Bon, peut-être qu'il faudrait aussi aider directement le berger en le responsabilisant aussi, peut-être voire en lui accordant un salaire, guillemets, hein, pour qu'il puisse rester dans le troupeau. Et,
voilà. Parce que nous, ça, pour vous dire, rester, alors le troupeau restait dans un parc de nuit, et les bénévoles se relaient. Donc, on n'a jamais... on était tout seul. Enfin, j'entends.
D'accord, c'était
une personne éveillée. Une personne éveillée. Et puis, pendant ce temps-là, il y en avait deux autres qui faisaient une mini-sieste d'une heure. Et puis, on tournait comme ça. Donc, on n'était jamais à trois sur le troupeau. Hein. Mais par contre, toujours au plus près du troupeau.
D'accord, très bien. Christian, on va arriver au bout de l'émission. Donc, si je sais que tu as rencontré le sous-préfet, Éric Suzanne, dernièrement. Est-ce que tu veux nous en toucher deux mots? Tu avais quelque chose rapidement à nous dire à propos de cette entrevue?
Oui. Donc, on a fait une mini délégation pour voir effectivement monsieur le sous-préfet de l'ODEV, qui lui pilote le dossier Louvre en Hérault. Et donc, Éric Suzanne est une personne qui a des grosses qualités d'écoute. On peut déjà dire ça. Donc, on lui a expliqué notre but. Et puis, on a souhaité lui proposer, lui demander de faire en sorte que la préfecture, si c'était possible, essaye de diffuser des vérités sur le loup. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des expressions dans les médias qui frôlent parfois de la part de certains éleveurs, de certaines structures, on va dire, même syndicales, qui fraudent parfois la mauvaise foi, voire certaines contre-vérités. Par exemple, des loups qui attaqueraient les humains, voilà, des loups qui auraient été réintroduits, etc. Donc tout ça, c'est évidemment des gros mensonges. Donc ce qu'on a proposé à la préfecture, c'est de faire une petite plaquette à destination du grand public, voire des élus, avec cinq vérités sur le loup. Par exemple, le loup est revenu en France naturellement. Le loup n'attaque pas les humains. Les diverses prédations du loup représentent une faible part, comme on disait, du cheptel français, c'est-à-dire 0,06% contre 4% dans le transport. Les éleveurs, enfin, sont de différentes façons, sont très fortement soutenus par l'État, par les contribuables qui sont aussi les consommateurs. Hein. Et puis par les agents de l'État, donc l'OFB, l'Office français de la biodiversité, les agents de la DDTM qui font un très gros travail. Et puis enfin, finalement, la protection des troupeaux, hein, c'est-à-dire qu'avec le fameux triptyque qu'il faut encore répéter, donc les clôtures, les chiens de protection de troupeaux et surtout la présence humaine sur le terrain, eh bien ça marche. C'est pas nous qui le disons, ce sont les expériences des beaucoup de jeunes agriculteurs, éleveurs, qui dans les Alpes maintenant se mettent à avoir des comportements et des méthodes de protection d'élevage qui fonctionnent.
Très bien, je te remercie. Je vous remercie infiniment tous les deux d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Je remercie aussi Axel à la technique.
Merci.
Et je souhaite que votre message soit répandu le plus possible pour qu'on arrive à une cohabitation harmonieuse entre les éleveurs et les loups.
Oui.
Et puis, une dernière chose, quand on y réfléchit, les chiens de troupeau, ne sont-ils pas eux-mêmes les descendants des loups? Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.
Les chroniques du vivant de Corinne.